Eh bien aujourd'hui dans notre studio de Radio Royan Vercors, place de l'Église, hein, studio on vous le rappelle nouvellement installé, puis qui aussi a pour attrait de pouvoir accueillir beaucoup plus de monde, et c'est un petit peu le cas aujourd'hui avec un événement qui va rayonner pour de nombreuses journées, nombreux mois, peut-être nombreuses années sur le territoire du Royan Vercors. Un château qui a donné aussi beaucoup d'histoires et puis aussi de légendes. Ce château de Rochechinard qui nous réunit tous aujourd'hui à travers un titre, Asile, point d'exclamation. C'est le dernier ouvrage de André Houot, auteur d'ouvrages de bande dessinée spécialement. Eh bien, juste auparavant, vous remercier également de venir jusque sur le Royan pour nous faire part de votre nouvel ouvrage. Une BD très conséquente, hein. On va découvrir cela à travers tout ce qui a été formalisé durant ce projet de Asile. À vos côtés, monsieur Houot, André Houot, c'est le châtelain, le propriétaire du château en personne, qui fait part aussi de cette table ronde. Et j'en profite donc pour vous saluer, monsieur Louis. Ok, bonjour.
Oui, bonjour.
Peut-être on aura votre regard assez curieux sur cet ouvrage d'André de Houot, puisque vous connaissez bien les lieux du château de Rochechinard. Le château donc implanté sur la commune éponyme et dont le maire est monsieur Claude Antelme, présent parmi nous. Bonjour Claude.
Bonjour Patrice.
Bienvenue également dans notre studio pour peut-être aussi évoquer, certes l'ouvrage, votre regard sur celui-ci, mais également peut-être de mémoire, le château qui a pu alimenter beaucoup d'imagination, de projection à travers l'histoire de ce prince ottoman, Zizim, on revient à cet effet au 15e siècle. Ça donne des attraits aussi scientifiques d'histoire, des choses très, très sérieuses à mettre tout d'abord en lumière. Et ça a été pour vous, peut-être, monsieur André Houot, déjà un premier travail. Vous êtes spécialisé, on le rappelle, aussi dans des ouvrages scientifiques comme la préhistoire, auquel vous avez pu donner de grands sens d'iconographie sur ce thème-là. D'autres thèmes habitent également votre passion pour la bande dessinée, outre les aspects historiques.
Je me suis toujours intéressé à deux choses, d'où on vient et où on va, quoi, en gros. C'était ça mes thèmes de prédilection. Chaque fois que j'ai fait une BD, j'ai toujours eu cette préoccupation de savoir d'où on venait. La préhistoire, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai même fait une série de science-fiction qui a eu 4 albums.
L'aspect science-fiction que vous avez développé après, des aspects archéologiques aussi, il y a eu tout un travail. Vous avez pu même travailler avec des grands noms de la science.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une préface de Daroun Taziev à une époque. J'en ai eu une autre de d'Yves Coppens, qui est décédé il y a peu de temps, qui était au Collège de France, et je suis allé le voir là-bas. Il m'a montré le fossile de Lucie, le petit hominidé qu'il avait trouvé dans le désert de l'Afar. C'était intéressant de voir. En plus, il savait mettre en scène. Il m'avait présenté ça comme un caillou. Il m'a montré ce que j'ai trouvé. Et puis, il me l'a retourné juste devant mon nez. C'est là que j'ai vu que c'était le crâne de Lucie, de ce petit australopithèque, comme on appelle ces gens-là.
C'est une responsabilité ensuite de mettre en image, c'est-à-dire que les gens, on est quand même bien habité par tout ce qui est représentation de l'image, de l'iconographie, de donner vraiment un aspect scientifique, imagé, c'est un travail très particulier.
Ah oui. Oui, parce que là, il faut une grosse documentation, il faut faire attention à ce qu'on dessine. Et là, je travaillais avec des archéologues, comme Yves Coppens, qui avait l'œil dessus sur ce qu'on faisait pour ne pas raconter de bêtises au point de vue des images, quoi, de l'iconographie, comme vous disiez. Mais pour le reste, il fallait faire un scénario qui corresponde à ce qu'on sait de ces australopithèques, de ces hominidés-là, qui vivaient debout, qui marchaient sur leurs pattes de derrière, comme nous, mais en même temps qui grimpaient aux arbres, qui survivaient dans une faune qui était très très dangereuse. Par exemple, là, c'était les premiers groupes humains, et ils étaient en proie aux panthères, à toutes sortes de bestioles qui certaines n'existent plus, comme les lions sabres, là, avec les grandes dents.
Voilà. Ça nous fait revenir aussi un petit peu dans l'univers de Rahan aussi.
Oui, c'est ça, oui. Sauf que Rahan était très fantaisiste, il mélangeait les dinosaures avec les humains, alors que ça n'a jamais été contemporain.
C'était plus improbable.
Oui, c'était plus improbable.
et l'aspect historique par rapport donc à ce château de Rochechinard. Alors comment avez-vous fait sa connaissance? Comment est né ce projet? On rappelle que c'est un ouvrage qui a été donc édité aux éditions Glénat.
Oui, ben, j'ai toujours bien aimé les sociétés médiévales. Et puis, comme j'habite dans la région depuis un bon moment maintenant, je suis arrivé en 81, j'habitais dans la Meuse, j'étais Vosgien d'origine, je suis arrivé dans le Royan, un peu comme ça, d'abord parce que j'ai un fils qui a un handicap et qui est dans un établissement ici du Royan, et puis aussi parce que je travaillais avec des archéologues de Grenoble qui faisaient de l'archéologie en subaquatique dans le lac de Palindru. Donc j'ai travaillé avec eux, ça a été ma première BD qui s'appelait Le Couteau de Pierre, c'était cette première BD qu'on a fait avec eux. Et puis ensuite, je me suis dit, le Royan, c'est quand même une très belle région. Et puis dès le début, je me suis fait des amis ici, dont un qui s'appelle Monsieur Jean, Roy, surnommé Roy, qui avait le bateau mouche à Saint-Nazaire-en-Royan. Et lui, il m'a parlé de Zizim. Pour la première fois, j'ai entendu parler de ce fameux Zizim, dont personne ne connaît grand-chose, mais en réalité, qui a compté dans l'histoire de France, puisque c'est une anecdote de l'histoire de France qui est bien répertoriée, qui est bien documentée, et qui reste quand même sur le plan anecdotique, personne n'en sait plus. Et je me suis dit, ça vaudrait la peine de partir du château de Monsieur Arquet là pour montrer que à partir de cette ruine il y a tout un passé qui existe derrière tout ça, voilà.
Donc de la documentation, de l'imagination, de quoi extrapoler aussi un petit peu ce château pour donner toutes ces dimensions donc qui apparaissent dans l'ouvrage, hein, un château que l'on n'imaginerait peut-être pas comme ça au premier abord et qui appartient. On va y revenir dans un instant pour la suite de cet ouvrage Asile, ce château qui appartient donc à Monsieur Louis Arquet, juste en face de moi. Comment c'est arrivé? Comment on peut acheter un château? C'est une aventure qui a débuté de quelle manière, Louis?
Ah oui, l'âge de 8-10 ans, il y avait des émissions Chef d'œuvre en péril à la télé, et je trouvais ça formidable. Et puis alors... vu que je venais avec mes parents voir aussi de la famille à Saint-Jean et un peu à Rochechinard, on montait au château. Et puis après, moi, je me disais, mais on peut le sauver, on peut faire quelque chose. Bon, il y a eu les fêtes médiévales qui ont duré 20 ans. Je pensais qu'ils allaient, à l'époque, je devais avoir 14-15 ans, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose, mais non. Se sont servis du château. Voilà, comme au 19e, ils se sont servis du château pour faire une carrière de pierre, pour récupérer.
La découverte de ce château, comment avez-vous appris qu'il était en vente? Parce que vous n'étiez pas spécialement sur le secteur à l'époque.
Non, je venais en vacances. J'ai fait connaissance du propriétaire, Roland Cotin. On est devenus amis. Et puis j'allais le voir en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, il ne va pas s'écrouler, les murs sont épais. Jusqu'à un moment donné, il y a eu un petit tremblement de terre, il y a une tour d'escalier qui est partie. Alors peut-être là, ça a commencé à se poser des questions. Voilà. Mais il ne voulait pas le vendre à un particulier. Il voulait que ça soit les communes. Puis ça ne bougeait pas. Et puis après, ben, il s'est retourné sur moi. Alors je lui ai dit, écoute... on va attendre à peu près un an de plus. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire bouger les communes. Bon, il y a eu des sorties entre mers pour voir d'autres monuments ailleurs. Mais au final, ils n'ont rien décidé. Donc, j'ai fait le pas.
Alors, quand vous avez acquis ce château, quel était l'objectif? Était de vraiment le retaper ou qu'est-ce qui est
C'est déjà le consolider. Je suis un peu hors la loi parce que j'ai pas de permis de construire, mais vu que j'ai
le maire acquiesce, il dit voilà. attention.
Vu que si je l'ai acheté, c'est pour y faire quelque chose, c'est pas pour attendre. Donc je fais, je consolide. Faut pas dire qu'on restaure, il faut consolider. Voilà. Restaurer après, c'est sûr que peut-être à un moment donné, j'aurai besoin de personnes pour. Mais bon, tant qu'il faut remonter des murs à certains endroits qu'on sait qu'il y avait un mur, ben voilà. Après, j'ai un ami qui connaît... Alors, il y a Jocelyn Derbier, qui est archéologue historien, qui bon, qui m'a donné des textes pour notre site du château. Mais après, j'ai aussi un autre ami qui est aussi casséologue, qui est dans l'Oise, qui connaît bien le château. Alors, il me donne aussi des conseils. Voilà.
Alors là, vous vous employez depuis un certain nombre d'années, donc à essayer de consolider un petit peu tout le temps.
Depuis 2005.
Ah oui. Ouais. Et vous vous y tenez?
Voilà, j'essaye. Alors là, un peu moins en ce moment.
Oui, l'hiver,
parce que je suis en train de m'installer dans la région, donc un peu plus. Voilà.
Votre regard sera bien pris en compte par rapport à ce qu'a représenté André Wu dans son ouvrage Asile de ce château. Vous ne ferez pas de vos observations. On peut dire qu'autour de cette table, chacun a un peu son château. Vous aussi, Claude Antelme, vous avez votre château, parce que vous avez vécu d'une autre manière, hein, ce château de Rochechinard.
Alors moi, je connais le château de Rochechinard depuis bientôt 77 ans, puisque, étant né à Saint-Nazaire-en-Royans, ben, je viens à Rochechinard chez mes grands-parents depuis l'âge de 8 jours. Donc j'ai toujours entendu parler du château et j'ai toujours entendu parler des hymnes dès que ma mémoire peut s'en souvenir. Et j'étais heureux de voir que dans les années 75 à 90, donc les jeunes, les gens de Rochechinard ont manifesté un intérêt en faisant les fameuses fêtes festives qui drainaient beaucoup de monde, puisque la dernière année, 92, on a estimé qu'il y avait au moins 3000 personnes qui sont venues assister aux manifestations en deux séances. Alors les gens étaient assis sur des bottes de paille. Aujourd'hui, c'est plus bien possible, pour des raisons de sécurité. Et tout le village était attelé à participer aux manifestations. Et j'habite Rochechinard depuis 2008, je suis revenu à Rochechinard depuis 2008, et donc j'ai toujours été intéressé par, avec un petit peu de distance, par ce que faisait Louis Arquier, que je ne connaissais pas. Je n'avais pas le plaisir de connaître Louis, et j'ai appris à le connaître, j'admire un petit peu sa volonté. J'admire un petit peu sa volonté. Je lui tire un petit peu les oreilles. Tout à l'heure, il vous a dit pourquoi je lui tire un peu les oreilles, puisqu'il fait des travaux sans que ce soit en concertation avec les bâtiments de France. Mais bon, après tout, personne de ces braves gens de l'administration vient l'aider, lui donner des conseils. Après tout, il fait ce qu'il peut.
Ils sont déjà venus, hein.
Ils sont déjà venus, oui.
Ils sont déjà venus.
Et puis après, en termes de responsabilité, vous êtes souvent, on peut dire, quand même seul. Il n'y a pas d'accompagnement spécifique.
On est deux, trois copains. Oui. Après, c'est un chantier, on ne peut pas être beaucoup. Il faut se surveiller. Alors après, l'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un d'autre qui soit du métier, qui puisse s'occuper d'un autre groupe. Mais c'est pas facile.
Voilà. Et vous, monsieur Antelme, en tant qu'habitant de Rochechinard, vous imaginiez déjà à l'époque zizime toute cette aventure? Vous aviez un peu des documents qui donnaient des références de cette époque?
À titre personnel, je n'ai jamais eu de documents. C'était que de la parole. Mais même ma grand-mère, qui maintenant aurait 120 ans, en parlait. Maman, bien entendu, en parlait, mon oncle. Même mon papa, puisqu'il n'était pas de Rochechinard, mais il connaissait l'histoire. Et l'histoire, moi je me souviens, à Saint-Nazaire-en-Royans, dans les années 50-60, on parlait un petit peu de Rochechinard, on parlait un petit peu de Zizim.
Alors c'est une transmission finalement peut-être orale depuis le passage de Zizim jusqu'à maintenant qui a fait que ça a conservé un peu ses souvenirs.
Il y a un petit peu de transmission orale, mais il y a quand même des recherches qui ont été faites, je crois, il y a un peu plus de 200 ans, donc dans les archives, qui ont permis de remémorer tout ça. Et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé pas mal de documents, puisque j'ai un souvenir, je ne sais plus le nom de ce prêtre, qui a été admis donc dans l'Académie des Belles-Lettres de Haute-Savoie, et son discours d'introduction dans les années 1890 a été l'histoire de James Zizim et de Philippine. Et lui, il a interprété ça comme étant, une étape entre le monde chrétien et le monde musulman.
Alors, juste avant d'aborder peut-être aussi cet aspect documenté par le dessinateur, l'auteur lui-même, Monsieur André Houot, savoir tout ce qui a composé cet univers et ce fil historique qui a été reconstitué, peut-être toucher un mot de cette légende brièvement de Zizim. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'accueil et puis ça fait peut-être aussi émerger un certain thème, celui de l'exil. Oui, n'est-ce pas, monsieur?
C'est pour ça qu'on a mis ce titre-là. Dans la version noir et blanc, d'ailleurs, j'ai conservé les 5 projets de couverture différents, et puis on a mis l'asile exil, l'asile isole, l'asile désole, et l'asile, pour finir, le dernier, c'est l'asile... L'asile est un mirage ou quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on a mis en utilisant les couvertures.
Asile, point d'exclamation. Hein.
Point d'exclamation, comme si c'était une demande. Quoi, ouais. Voilà, en gros. Voilà.
Ça laisse entrevoir le prince ottoman qui est de passage dans la région. On peut toucher un petit mot, juste, comment dirais-je, un pitch pour synthétiser un petit peu l'intrigue de l'histoire.
Oh ben, ce qui s'est passé, c'est que ce Zizim avait un frère, et au moment où de la disparition du papa, qui s'appelait Mohamed le Conquérant, qui était un grand musulman connu. Il a fait des conquêtes jusque pas très loin de chez nous. Ce monsieur-là est disparu en 1481. Et donc ses deux fils se sont déchirés pour récupérer l'Empire ottoman. Et au début, ça se passait plutôt bien pour Cem, c'est le vrai nom de Zizim, hein, Cem Osman Sultan. Qui avait réuni quand même une armée de 40 000 hommes, mais finalement, ça a tourné à son désavantage, et il a été obligé de se réfugier d'abord en Égypte, mais les Égyptiens n'avaient pas trop envie de le conserver, de se mettre mal avec le reste de l'Empire ottoman. Et pour finir, il a demandé asile aux chrétiens, aux chevaliers de l'ordre de Malte, qui se trouvaient en face, sur l'île de Malte. Et donc... Il a obtenu facilement l'asile parce que les chevaliers de l'ordre ont vite compris qu'il y avait un intérêt à pouvoir monnayer la garde de ce personnage là important. C'est un personnage très important. Et lui, on lui a fait miroiter le fait qu'il pourrait rencontrer le roi de France, qui était certainement la nation la plus, c'était même pas certainement, c'était sûr, la nation d'Europe la plus importante à l'époque. Le roi de France pourrait régler son problème par rapport à son frère. Mais en réalité, les chevaliers de l'ordre de Malte lui ont fait payer une sorte de rançon de 40 000 ducats. Je crois que c'était des ducats, je suis même plus sûr maintenant. Une rançon de 40 000, je sais pas quoi, en or. Et tous les ans, il donnait ça aux chevaliers de l'ordre de Malte pour le conserver à distance de l'Empire.
Et après tout ce cheminement vers cette forteresse du vertige.
Alors il est arrivé un jour, après un an ou deux, où il a été trimballé dans toute la chrétienté, en particulier en France, et bien, il a fini par arriver à Rochechinard. Le grand commandeur de l'ordre de Malte, Charles Allemand, avait un neveu qui s'appelait Barachine Allemand, qui était propriétaire du château, et ils se sont dit que là, ils pourraient le mettre tranquillement, il pourrait rester tranquille. C'était pas vraiment un prisonnier, c'était un personnage quand même de haute importance qui avait un autre statut que celui de prisonnier. Et donc il est resté là pas très longtemps finalement, mais suffisamment longtemps, contrairement à ce qui se dit, on pensait que c'était quelques semaines, quelques mois, mais en réalité... Il a dû rester au moins 2 ans, parce que on le retrouve dans les écrits médiévaux. Il était présent un grand tournoi, oui, qui s'est passé à Romans sur Isère. Et donc il était présent. Il a distribué des pierres précieuses aux gagnants du roman. Voilà.
Est-ce qu'il y a plusieurs interprétations finalement de cette légende, de cette histoire du prince Zizim? Il semble y avoir des interprétations qui diffèrent. Oui. Tout le monde ne semble pas d'accord sur les faits, notamment sur sa résidence au château de Rochechinard. Vous avez l'air de préoccupé
Moi,
par la question.
J'ai toujours entendu dire qu'il avait fait un très bref séjour.
Ouais.
Grosso modo, il est arrivé au début de l'hiver. Il est parti avant la fin de l'hiver 1484.
Et ensuite, Saint-Laurent-en-Royans, qui a été une deuxième phase, hein, c'est ça, après, c'est évoqué dans votre ouvrage.
Oui, c'est Guy de Blanchefort que je lui ai mis la tête de Monsieur le Maire.
Et oui, alors on précise, là, c'est une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, Claude Antel, ainsi que Louis Arquet, respectivement maire et propriétaire du château de Rochechinard, et vous êtes représenté dans l'ouvrage.
Nous sommes croqués à l'intérieur.
Vous êtes croqués. Voilà, c'est une certaine fierté, finalement.
Voilà, moi, j'ai choisi d'être le grand commandeur.
C'est pour immortaliser.
Voilà, immortalisé avec le prince Zizim. Cet aspect de documentation, ça a été quelque chose d'assez important. On peut imaginer, il y avait aussi une caution scientifique derrière tout cela.
Ah, j'ai lu plusieurs bouquins, dont certains qui sont même qu'on ne trouve même plus. Il a fallu que je les lise, que je les retrouve par l'intermédiaire d'Internet, de Google, etc. J'ai lu des bouquins du XVIIe siècle quand même qui racontent l'aventure amoureuse entre Zizim. Finalement, c'est ce qui a pas trop plu dans le pays. Il est tombé amoureux de la fille du comte de Sassenage, qui habitait dans le château de Saint-Laurent, qui n'existe plus maintenant. Maintenant, il reste plus que la colline avec une petite statue dessus. Mais à l'époque, il y avait un beau château avec une tour octogonale que j'ai essayé de réinventer complètement. J'ai eu du mal d'ailleurs à associer l'aspect médiéval de la tour octogonale qui était dessus. Et puis le reste qui était certainement un peu plus évolué au point de vue habitabilité, c'est-à-dire c'était déjà un château qui était
plus résidentiel,
qui était plus résidentiel, oui. Mmh. Avec quand même encore des contours, des murs de fortification qui étaient quand même très importants à l'époque, hein, je pense. Mmh.
C'est toujours aussi un travail de se projeter, comme le château de Rochechinard, projeter son architecture. Alors vous aviez un peu des éléments en votre possession, mais ça demandait aussi de l'imagination, d'extrapoler comme ça ce qui est existant.
Oui, pour le château de Rochechinard, il n'y a pas eu de problème. J'ai, avec Louis Arquet, il m'a baladé dans son château. On a descendu à quatre pattes voir où était la citerne qui permettait d'avoir une réserve d'eau là-haut. Il m'a promené. Je suis même monté carrément sur la tour, sur la tour, le donjon, ce qu'on appelle le donjon, là où il reste les fenêtres, et puis le dessus est recouvert par une bâche qui l'empêche de prendre l'humidité. Donc on est monté jusque là-haut avec ces échafaudages qui sont pas toujours très 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 stables. Mais je suis allé voir quand même là-haut, et puis j'ai fait le tour par les deux côtés. Enfin, j'ai vu tout ce qui était à peu près possible de voir. Ouais.
Alors cette représentation du château, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que propriétaire, Monsieur Arquet, Louis Arquet?
Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien.
Par exemple, sur le, vous dites sur certains aspects du graphisme, ça j'aurais peut-être vu plutôt ceci comme...
Oui, parce que il y a le pont-levis, le deuxième, il y a des petites choses, je ne suis pas forcément d'accord. Après, sur le premier, je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait un pont-levis pas courant, coulissant, pas un pont-levis qui coulisse, mais bon, c'est assez rare. Voilà.
Et il a la particularité d'être quand même dans la pente. Hein. Peu de châteaux sont comme ça, flanqués sur un flanc de coteau dans la pente. Ça nécessite un peu des adresses.
Oui, de l'extérieur, ça ne se voit pas trop. Mais après, lorsqu'on y est, on se rend compte qu'il y a du vide tout autour, qu'il y a juste un accès. Voilà,
C'était vraiment un château de défense.
On l'appelait la forteresse du vertige à une époque.
Je pense au
19e siècle. Ouais. Ouais. Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux médiévaux qui sont fabriqués, j'en connais d'autres, qui sont fabriqués un peu sur le même principe de cet aspect vertigineux de la protection naturelle des lieux, quoi.
Alors donc l'aspect du château, de tout ce qui représente l'architecture et l'environnement, et puis l'aventure même aussi, c'est aussi une histoire d'amour. Hein.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'on avait essayé de sublimer, c'est-à-dire de mettre en avant, c'est l'histoire d'amour entre ce personnage qui arrivait du fin fond de l'Orient, et puis qui est tombé amoureux finalement de la fille du comte de Sassenage, quoi. Elle s'appelait Philippine. Enfin, à l'époque, elle s'appelait Philippe. Parce que Philippine, c'était un nom qui n'existait pas. Alors, on l'a remis au goût du jour. Mais dans le livre que j'ai lu, du XVIIe siècle, c'est bien stipulé qu'elle s'appelait Philippe et que normalement, ça a été remis au goût du jour. Quoi.
C'est un livre de Guy Allard.
Oui, c'est ça.
Qui,
était, oui,
qui faisait partie du Parlement de Grenoble.
Oui. Voilà.
Et donc, c'est la famille de Béranger de Sassenage, c'est cela ou...
Oui, c'est oui, ça. C'est... Oui, c'est les Sassenages.
Qui régnait en maître hein, sur le Royan, beau, sur oui. le Dauphiné, on peut dire, presque oui, largement.
Hein. Oui, oui. Mais ils étaient justement en résidence à Saint-Laurent parce que le château était plus agréable à vivre que celui de Sassenage, le château de Sassenage. Mm-hmm. Et la fille avait 17 ans, c'était une très très belle fille. Que, paraît-il, elle était surnommée, je ne sais plus le prénom, le deuxième prénom. Mais,
Philippine Hélène de Sassenage.
Hélène de Sassenage, oui, voilà. En référence à Hélène de Troyes.
Alors, trois directions. Hein. Déjà, l'aspect documentation qui a dû prendre énormément de temps et d'énergie, on peut bien l'imaginer, oui. pour oui. recadrer un peu toute cette atmosphère historique. Le dessin lui-même aussi. La colorisation également. Alors, tout cela, c'est uniquement vous qui avez été sur tous ces
non,
champs d'application. Vous étiez encadré.
Non, je voudrais que je dise quand même qu'une chose importante, c'est que j'ai des possibilités de contact avec la directrice du musée de Saint-Antoine de l'Abbaye. À un moment donné, il fallait représenter l'abbaye de Saint-Antoine en cours de construction. Et là, j'ai été aidé par Madame Mosselin qui n'a pas hésité à me passer des documents qui ne sont pas encore officialisés, mais sur lesquels les scientifiques ont déjà cherché. Et ils savent les étapes de réalisation. Donc l'église, là, je suis plus, beaucoup plus sûr d'ailleurs de ma représentation de l'église de Saint-Antoine à l'époque que du château de Saint-Laurent en Royan qui n'existe plus.
Hein. Oui, les choses ont été beaucoup plus consignées par rapport à Saint-Antoine voilà. que Rochechinard pour oui. retrouver des éléments.
Voilà.
Et puis également...
On parlait de la couleur, alors il oui. ne faut pas oublier aussi de parler de Jocelyne Charance, qui est une coloriste importante, puisqu'elle travaille aussi bien pour des BD d'aviation, comme Tanguy et la Verdure, des auteurs très prolifiques et puis connus. Et là, vraiment, je l'ai pas lâché. C'est un travail collectif qu'on a fait tous les deux. Case par case, elle a suivi. Mais j'avais des intentions. Je voulais qu'on fasse bien les plans intermédiaires, les arrière-plans. Tout ça, il fallait passer, faire de la brume. C'est un travail qu'on a fait ensemble, quoi, à chaque fois. Mais vraiment, elle est très réactive. Dès qu'on a une idée, elle est capable de vous trouver la solution avec son ordinateur qui permet de faire ce qu'on veut faire. Voilà.
Et les éditions Glénat donc, donnent le côté d'assise hein, de la publication. Ah, c'était oui. aussi une rencontre qui était...
Oui, ça, c'est vieux, hein, parce que j'ai déjà fait une première BD médiévale chez eux il y a 7-8 ans. Qui s'appelait Hamelin, c'est l'histoire du joueur de flûte de la ville d'Hamelin en Allemagne. Et donc elle m'a donné un peu une notoriété dans le genre médiéval. Et puis c'est un genre qui m'a toujours intéressé, cette société dans laquelle le mélange du réel avec l'imaginaire qui revient tout le temps dans la tête des gens. Donc mon histoire rencontre aussi de ça, quoi, pas seulement de la réalité visible du château, mais aussi des mentalités de l'époque qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles de maintenant, quoi.
On entrevoit à cet effet un petit peu aussi la vie du Royan autour du château.
Je pense que plus ou moins, mais on voit au moins comment les gens vivaient, comment ils pensaient les choses. Hein. Alors, c'est pas spécifique au Royan, mais c'est plus spécifique à l'époque, quoi, je veux dire.
Par rapport à ces échos, Claude Anthelme, vous avez une observation, quelque chose à nous dire sur, effectivement, la vie de ce château, son entourage, l'environnement du Royan.
Je n'avais aucune idée de ce qu'était le château de Rochechinard, donc je connaissais les lieux. J'y étais venu quand j'étais enfant, je ne sais pas du plus tard, mais... Donc les images et les dessins qui ont été faits par André, je les trouve splendides. Bon, certains y font quelques reproches, mais pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Il y a quelques pages dans lesquelles je suis très 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 heureux de pouvoir voir. Et puis, petite anecdote, c'est un sujet un petit peu particulier pour notre territoire. Simplement, ben, dans l'ouvrage, il y a la présence du loup. Ouais. Le loup est très présent dans l'histoire. Et il a même une petite aventure avec Zizim.
D'accord. C'est pas innocent qu'un loup soit présent. Elle donne une certaine idée de l'époque aussi. Il y avait des loups
sur
cette...
Oui, je pense que c'est ça. Hein. Mmh. Je pense que dans les... je ne sais pas comment on peut dire ça, mais dans l'inconscient collectif, le loup a son importance. Hein. Même à notre époque, quand on parle du loup, c'est jamais tout à fait... Ça a toujours été un grand concurrent de l'humain sur le terrain. Et puis là, le loup de mon histoire, il a un rôle un peu mystérieux. Il arrive d'ailleurs, il est censé être la conscience du frère de Zizim qui apparaît pour lui créer des problèmes sur place, quoi, en gros, c'est ça.
C'est un peu une métaphore du frère qui l'attend,
c'est
un
ça,
peu au tournant.
Voilà. Et vous verrez en lisant l'histoire à l'occasion.
Alors, deux ouvrages sous nos yeux, merci hein, de nous avoir apporté. Alors, il y a une version en grand format et plus petit format.
Oui.
Donc une en noir et blanc, vous pouvez bien nous expliquer à quoi ça correspond.
Alors c'est l'éditeur qui, quand un graphisme lui plaît particulièrement, l'éditeur a décidé de faire une version noir et blanc, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent ce genre de choses pour conserver, pour avoir l'état du graphisme à l'état brut, quoi. Mmh. La planche, une planche de BD, elle est à peine plus grande que ce qui est dans ce bouquin. Et on voit bien tous les défauts, on voit bien toutes les qualités aussi du graphisme, la décomposition du noir et du blanc, etc.
Et également, effectivement, donc, toute cette aventure dont vous êtes fier, monsieur Rantelme, en tant que maire de Rochechinard, on pourra bien sûr, on imagine bien le découvrir dans la maison de la mémoire.
Tout à fait, c'est prévu, bien sûr. On a même prévu une manifestation qui, bon, on n'a pas encore fixé la date, mais je pense que pour Pentecôte, on fera à la maison de la mémoire une espèce de séance de dédicace pour toutes les personnes qui voudront bien le faire. Mais moi, je suis très très heureux parce que j'ai tenté de faire un peu de communication sur le territoire. Et ben, j'ai eu un contact de la mairie de Bourganeuf. J'ai eu Madame Pouget, Marie-Hélène, qui est adjointe à Bourganeuf. Donc, là, il est évident que j'ai envoyé un petit message, mais ils sont désolés, ils seraient presque venus vendredi prochain si leur emploi du temps l'avait permis. Vous voyez, donc. La communication avec Zizim passe bien.
Voilà, le succès, le rayonnement et puis aussi tout ce contexte d'aventure du prince Zizim à Rochechinard. Alors, à défaut de visiter le château, on peut toujours passer à côté. Hein. Ça donne une belle idée aussi de sa représentation, n'est-ce pas, Louis Arquet ?
Sur le chemin de randonnée,
voilà.
Oui, en plus, j'ai signé un papier, je crois, au niveau du département, hein, comme quoi j'autorisais le chemin de randonnée à passer devant le château. Voilà.
Du coup, on voit bien les vestiges. Et puis tout ce qui est un petit peu en confortement, enfin.
Voilà.
Ça donne un peu une idée de ce qui reste à faire. Beaucoup de choses.
Voilà.
Il faut avoir un peu de la foi, de la passion. Mm-hmm. Et puis toujours vous avez toujours un peu en mémoire quand vous œuvrez sur votre château, tout ce qui s'est passé, ou de découvrir des détails qui font naître des choses un peu dans votre imagination.
Bah, lorsque les gens passent, souvent ils me posent des questions, donc je leur explique un peu l'histoire. Il se passe des fois un certain temps que je passe à parler, les copains m'arrêtent, viens bosser. Voilà.
Un château, effectivement, pas résidentiel, hein, contrairement à celui de Saint-Laurent-Royan qui semble plus confortable. Peut-être que le prince Zizim était peut-être pas tout à fait dans un aise princier dans ce château. Hein. C'était assez spartiate quand même, le confort, on peut l'imaginer. Non,
j'en rends compte à un moment donné, il dit c'est bien Rochechinard, mais c'est pas plus gros que la coque d'un navire. Quoi, en gros.
Merci beaucoup aussi, monsieur Haut, d'être venu nous en parler et de nous donner envie hein, de l'avoir entre les mains, cet ouvrage disponible assez facilement. Hein.
J'avais fait un petit texte qui aurait pu servir en quatrième de couverture pour expliquer que quand on se balade autour du château actuellement, on a Pour peu qu'il y ait un peu de vent, on entend les branches qui s'entrechoquent comme s'il y avait encore une
présence.
Une présence, enfin, oui, carrément une milice qui se promène en bas, une patrouille qui descend dans la combe en dessous. Et puis que le vent aussi, de temps en temps, quand il réagit dans les murs des ruines, ça peut être un peu la complainte de Zizi, mais de son amoureuse.
Ça fait voilà.
Vous l'entendez distinctement, cette complainte dans les ruines.
C'est les échafaudages. Dans les tubes d'échafaudage, ça souffle. Ça fait ouh.
Ce qui fait renaître la légende.
Ce qu'il faut dire peut-être aussi, une dernière chose, c'est que il ne faut pas que qui que ce soit s'imagine qu'il y a un trésor caché suite au coffre de Zizi.
Ah oui, parce qu'il y a la légende du coffre.
Il se promène avec coffres et des coffres de choses précieuses, mais il n'y a plus rien de tout ça. Hein. C'est pas la peine
parce
que les gens
s'imaginent. Il y a les chercheurs de trésors qui viennent, qui me foutent tout en l'air. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui sont intéressés par la question, qui viennent faire des fouilles.
Ouais.
Ah oui, c'est étonnant. En tout cas, facilement disponible, hein, ce livre. Par les éditions Glénat, on peut imaginer un rayonnement très large de l'ouvrage.
Ah ben, il est dans toutes les librairies depuis hier, avant-hier, de tous les pays francophones, plus ou moins, en particulier de la France, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, etc. etc.
Merci beaucoup et une belle carte de visite pour Rochechinard, finalement.
Tout à fait.
Et peut-être aussi beaucoup de curieux qui vont venir sur le Royan et particulièrement sur les hauteurs à Rochechinard pour voir cela de plus près. Merci beaucoup à tous. On rappelle M. André Wu, dessinateur, auteur de cet ouvrage bande dessinée. Le propriétaire du château, en présence également M. Louis Arquet. Et puis le maire du village de Rochechinard, ambassadeur aussi de ce château. Claude Antelme, merci beaucoup à vous et à très bientôt.
Merci.